Mémoire vive, aujourd'hui présentée par Isabelle de Castelbajac, chargée de mission culture juive à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Une émission avec RCJ.
Bonjour, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui dans Mémoire vive un rabbin hors du commun, aumônier général des armées, ancien membre du Comité national consultatif d'éthique, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels une monographie sur Jacob Kaplan, parue en 2006, et aux presses de la Renaissance en 2011, Les enfants d'Abraham, où vous faites dialoguer les trois religions monothéistes. Raïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être arrêté quelques minutes dans les studios de RCJ. Votre dernier ouvrage, paru aux éditions Desrosiers, est un recueil de textes, d'articles et de conférences d'Emeric Deutsch que vous avez réunis à la demande de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il s'intitule « Emeric Deutsch, la volonté de comprendre ». Descendant du Khatam Sofer par sa mère, Cohen, étudiant de yeshivot hongroise prestigieuse, rescapé de la Shoah grâce à la cacheroute, élève de Piaget, psychanalyste, fondateur et président directeur général de la Sofres, auteur d'ouvrages de sciences politiques et de pensée juive, mais aussi membre éminent de grandes institutions juives, Emeric Deutsch, dont vous avez été très proche, a illuminé les débats de la commission culture juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah sous la présidence d'Adi Steg et de Raphaël Hadas-Lebel. Il nous a quittés il y a 2 ans, mais sa vision du judaïsme et sa démarche, reposant sur l'alliance du Talmud et de la psychanalyse, sont l'objet de cette somme qui se veut aussi un hommage. Pour mieux définir le cadre dans lequel la pensée d'Emeric Deutsch se développe, Raïm Korsia, pouvez-vous nous rappeler comment la cacheroute a sauvé Emeric Deutsch et ses compagnons durant la Shoah ?
Ouais, c'est un peu... c'est pas une anecdote. En même temps, c'est important. Ils étaient dans un camp de travail et ils ont demandé à pouvoir jeûner le jour du 9 av. Comme ils avaient demandé d'ailleurs de manger kasher. Le chef du camp, qui pour antisémite avait quand même de la productivité à garantir, leur a dit « faites ce que vous voulez, je ne veux pas savoir, à condition que vous ne soyez jamais malade ». Et donc, même quand ils étaient malades, fatigués, ils n'allaient pas à l'infirmerie pour ne pas avoir de soucis. Là-dessus, arrive quelqu'un qui dit « j'ai besoin de personnes pour déblayer les premiers bombardements de Budapest ». Et donc, il dit « il faut des gens solides, on va prendre les plus costauds ». Quels sont les plus costauds? Ceux qui ne vont jamais à l'infirmerie. Et donc, il prend tout le groupe où Emeric Deutsch était. Mais à travers cette anecdote, finalement, c'est la confiance qu'il avait en Dieu, dans les hommes. Je ne sais pas dans quel ordre, d'ailleurs. Dans les hommes, en Dieu. Confiance assez globale. Il avait confiance dans le monde, dans l'avenir. Et c'est une des grandes discussions qu'on a eues. Il m'a raconté qu'après la guerre, comme beaucoup de juifs, mais comme d'autres juifs ne l'ont pas fait, il y avait deux tendances. Une tendance à se dire il faut se plonger dans la vie. J'avais des amis que j'aimais beaucoup, qui s'appelaient les Klugman, qui se sont littéralement mariés dans les camps. En sortant des camps, ils se sont rencontrés dans un camp, ils se sont mariés. Parce qu'il y avait cet impératif de vie. Face à la mort dans tout ce qu'elle a de plus horrible, affreux, terrifiant, il fallait être dans la vie. Donc il y a des gens qui se sont mariés immédiatement pour fonder quelque chose, se réfugier dans la vie, je dirais. Et d'autres, comme lui, qui se sont dit longtemps pourquoi prendre le risque d'avoir des enfants et leur imposer ce qu'on a vécu. Ce qui fait que une partie, une génération a attendu jusqu'à ce que l'espoir soit revenu. Et c'est ça, je crois, l'une des clés de sa vie, c'est l'espérance. Il a toujours, finalement, fait gagner la vie. Il y a un verset dans le Deutéronome qui dit « Voici, je place devant toi la vie et la mort, ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. » Je crois qu'il a toujours fait le choix de la vie. Et moi, c'est un de mes livres, pour moi, le plus important, parce que c'était une dette à payer. J'ai une grande dette envers lui. Parce que, quand vous parlez d'alliance entre le Talmud et la psychologie ou la psychanalyse, sa conviction profonde, c'est que la Torah raconte la vie de l'homme et de la femme, rassurez-vous. Donc il faut qu'il y ait tout. Donc quand Avraham est amoureux de Sarah, parce qu'il est très amoureux de Sarah, eh ben c'est une histoire d'amour. Quand Jacob est très amoureux de Rachel, c'est une histoire d'amour. Quand par contre Lot se bagarre avec Abraham parce que les bergers, c'est une histoire de bagarre habituelle de cousins, de neveux. Vous voyez, c'est une histoire habituelle. Quand il y a de la haine entre Cain et Abel et de la jalousie entre frères, c'est la jalousie qu'on a tous connue. J'imagine, vous avez des frères, j'imagine. Et donc, vous avez dû vous bagarrer avec vos frères ou vos sœurs. En tout cas, vos frères. Comme chez moi, d'ailleurs. Et comme je vois mes enfants le faire. Donc, plutôt que de me dire « j'invente le monde », je peux me dire, la Torah me raconte l'histoire de l'homme, de l'humanité. Et donc, dans ce livre, il y a les ressorts les plus profonds de l'âme humaine. L'espérance, la peur, l'angoisse, etc. La peur. Regardez ce psaume. « L'otira mi parad laïla. N'aie pas peur de la crainte de la nuit. » C'est pas peur de la nuit, c'est peur de la crainte de la nuit. Et notre société est dans un temps où on est pétri par la peur. On est sclérosé par la défiance. Et cet homme, Emmerich Deutsch, m'a toujours, dans ma vie en tout cas, instiller de la confiance. Il m'en a peut-être donné trop, certains vous diraient. De la confiance dans les autres, dans le monde, peut-être un peu en moi. Il a instillé un bonheur de vivre, une joie, une simcha, un grand éclat de rire. Voilà. Ma rencontre avec lui, c'est un immense éclat de rire. J'ai des souvenirs qui sont des immenses éclats de rire, comme quand on découvrait des textes, quand on commentait, quand on chantait les chants de Shabbat, quand j'étais à côté de lui à la synagogue. Voilà, donc j'avais une dette à payer, et quand la fondation m'a proposé de regrouper des textes, de les rendre plus lisibles, c'est-à-dire, c'était souvent un homme de la parole, donc il fallait rendre lisible à l'écrit quelque chose qui était parlé, et qui avait son intonation, sa voix, son élan vital portant lui. C'est difficile de retranscrire tout ça, c'est même quasi impossible. Le livre est par exemple gros, épais, mais c'est pas fait pour être la page 1 à la page 400 et quelques. C'est fait pour être une base de référence, un élément de plus dans la réflexion. Voilà.
On en vient donc à la définition du projet de civilisation juive que donne Emmerich Deutsch. Selon lui, quel homme le judaïsme construit-il et quel rôle joue la loi dans cette construction ?
Déjà un homme hongrois.
Qu'est-ce que ça veut dire un homme hongrois ?
Il était très attaché à la Hongrie. Et pour lui, c'était un pays de règles, de respect. D'où d'ailleurs ce sentiment terrible de trahison pendant la guerre. C'est que ce pays qui était un pays d'ordre, de respect des us et des coutumes, on était toujours un comte. On était toujours docteur en Hongrie. Herr docteur de ce que vous voulez, mais pas forcément de médecine, mais vous étiez Herr docteur. Bon, son père était docteur en droit, avocat. Donc, Herr docteur. Et, tout est si bien ordonné, finalement, que ce pays est trahi. C'était une de ses grandes difficultés. Mais sa vision d'une société idéale, c'est une société de responsabilité, où finalement on assume ce qu'on est. Et il a des textes qu'on a repris sur la matrilinéarité qui montrent la chose la plus importante qui soit dans le couple, à quel point c'est important, un pôle paternel, un pôle maternel. Un pôle paternel, et c'est très intéressant, ce qu'il n'est pas dans la théorie de tuer le père, il est dans la théorie de dire c'est le père qui peut sauver de la volonté de cannibalisation, en quelque sorte, de la mère. C'est-à-dire c'est le père qui instaure la distance. Parce qu'il reprend un passage de Freud, j'ai en tête ce texte, il reprend un passage de Freud qui explique que le père est culturel et la mère, elle est sensible. D'ailleurs, les mères le revendiquent en disant « Comment ? Moi, je l'ai porté dans mon ventre pendant 2 mois. » C'est très juste, d'ailleurs. C'est très vrai. Au point que, d'ailleurs, la religion est donnée par la mère. Mais voilà, il prône une société de la culture, d'éducation, du progrès. Et on assume ce qu'on est et on essaie d'évoluer. Pas uniquement d'hommes comme dans l'émission « C'est mon choix, je suis ce que je suis, point barre ». Non, je sais d'où je pars et j'essaie de m'élever. Et lui, il l'a prôné et il l'a construit par la compréhension du monde. Voilà pourquoi ce livre s'appelle « La volonté de comprendre ». C'est un titre qui a été trouvé par Pierre Veil, qui était son successeur à la Sofresse. Je l'ai appelé un jour au téléphone. J'ai dit, tiens, comment je pourrais appeler le livre, machin. Emmerich, c'était la volonté de comprendre. Bon, voilà, c'est parti comme ça. J'ai dit, tiens, bim, boum, c'est le texte. C'est le titre. C'est ça. La volonté de comprendre. Et vous savez par quoi ça passe, la volonté de comprendre ? Ça passe par la volonté de se comprendre. C'est-à-dire qu'on est très fort en général pour comprendre les autres, mais on est handicapé, lourdement handicapé, pour se comprendre soi-même. Soit on a assez d'amour et de confiance dans les autres pour leur faire confiance de nous comprendre, une analyse, des choses comme ça, soit on va dans le mur, soit il faut faire l'effort personnel de se lever. Itoriri, itoriri, redresse-toi, redresse-toi.
Mais ça renvoie d'ailleurs à l'étymologie de Tfila, c'est Emri qui expliquait que ça veut dire, en fait, la prière, c'est se juger soi-même, se regarder pour se comprendre.
Exactement. J'ai toujours considéré d'ailleurs que le monde de prière, il n'y a pas besoin de 3 heures le samedi matin pour prier Dieu. Vous savez, on arrive à envoyer un SMS. Je pense bien qu'on doit arriver à envoyer un genre de SMS à Dieu. Et d'ailleurs, fondamentalement, je pense que la prière, c'est ça. C'est une préparation à un instant. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, une microseconde, une seconde, 10 minutes, peu importe. Chacun va avoir son temps où il va vraiment se livrer. Donc il y a une préparation avant et une redescente de ça après. Alors ça se fait avec des psaumes, ça se fait avec tout le décorum de la prière. Mais ça, c'est être devant soi-même. Prenez le déroulement du matin. Il a un texte assez merveilleux dans le livre. Il faut bien que je fasse la pub du livre.
Bien sûr, on est là.
Non, mais il y a un texte merveilleux sur la santé. Finalement, comment on fonctionne le matin ? On se lève, il y a un réveil. On va se laver, c'est utilitaire. On se lave bien les dents, très utilitaire. On mange, c'est utilitaire. On s'habille, c'est utilitaire. On ne fait que de l'utile. Et donc, on rentabilise. Vous voyez ? Et il y a un moment qu'on va prendre où on fait quelque chose qui n'est pas immédiatement rentabilisable. Je vais sortir de cette course à la rentabilité pour prier. Bon, je prie Dieu, je remercie Dieu de m'avoir créé, ok, d'accord, tout ça c'est bien. Mais en même temps, je prends le recul nécessaire pour me dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, voilà. Dans cette journée que Dieu m'offre, qu'est-ce que je vais faire ? Donc ce n'est pas la rentabilité immédiate. Et je crois que si vous pouvez résumer son livre, c'est difficile, mais là, en parlant avec vous, peut-être que ce concept d'utilitarité de l'homme, du corps, il le bat en brèche. Et il le prend par l'exemple qu'il prend sur le texte sur les personnes âgées. Finalement, notre société, elle consiste à dire, personne n'est âgée, elle ne produit plus. Bon, ben voilà, elle est gênante. Elle a un coût, c'est lourd pour la société. On ne veut pas qu'elle meure, mais enfin, si elle pouvait disparaître un peu, moins nous gêner, faut l'enlever. Un malade, encore pire. Et un malade très grave, quelqu'un dans le coma. Tout ce qui n'est pas immédiatement productif. Et lui nous dit, eh bien, c'est ce qui donne du sens. Et moi, je vois avec mes enfants, par exemple, ils me le disaient souvent, un enfant doit savoir s'ennuyer. Ça veut dire occuper du temps qui n'est pas immédiatement. Et on a toujours la tentation. Regardez le mercredi après-midi. Et alors, midi 30, ils sortent de l'école. Midi 42, ils sont devant le tennis. 12-15 heures, machin, ils ont la danse. À 17 heures, le piano. À 18 heures, le machin. Comme s'il fallait absolument l'ordre. Et on ne peut pas leur mettre une heure, pas utile immédiatement, mais qui sert à faire le point, à emmagasiner ce qu'on a. Et c'est ça, finalement, il m'a appris, ce qu'il a essayé de transmettre dans ses textes, à savoir faire un pas de recul sur soi. Mais c'est la chose la plus dure qui soit, je n'ai pas dit que je sais, en tout cas, je sais ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je sais le faire, mais je sais ce qu'il faut faire.
On parlait d'étymologie, il aimait beaucoup l'étymologie, et souvent il parlait de l'étymologie de yada, qu'on traduit souvent par savoir, mais que lui préférait traduire par connaître. Alors pour lui, connaître, c'est vraiment au sens biblique, c'est être traversé par une réalité. Alors, une question importante, parce qu'il me semble qu'il en parle énormément dans le livre et dans ses cours aussi, c'était central pour lui. Dans quelle mesure l'étude et la pratique sont-elles les conditions d'une véritable appropriation de la loi ? Comment ça s'articule ? Autrement dit, qu'est-ce qu'étudier pour Emric Deutsch et pourquoi pratiquer ?
Ouais. C'est compliqué. C'était une grande question, la pratique de sa vie. L'étude, c'est consubstantiel à lui. Il était à l'échiva tout petit, il était un élève brillantissime. Mais c'est pas parce que je l'aime que je dis ça. Parce que ses maîtres l'ont dit, parce que l'échiva où il est rentré, on rentrait pas parce qu'on était le cousin, le fils ou le beau-frère de quelqu'un. On rentrait parce que on était capable d'apporter quelque chose à l'échiva. Et il est rentré dans ses échivotes. Mais la question du lien entre l'étude et la pratique, c'est une des grandes questions de sa vie. Et finalement, il a tranché très tôt qu'on pouvait pas être cohérent. C'est un homme de la cohérence. Il a assumé tout ce qu'il a dit. C'est rare, vous savez. Et je vous donne un exemple simple. Il était président de la communauté de Montevideo 4 ans. Il a été réélu un deuxième mandat. Il aurait été réélu 10 ans, 10 fois. 10 mandats, comme beaucoup. Et il a dit, je me rappelle cette phrase, si 2 mandats de 4 ans, ça suffit pour le président des États-Unis, ça devrait suffire pour le président de la synagogue de la rue Montevideo. Ce qui arrangeait beaucoup son épouse, parce qu'elle en avait marre qu'il se charge de la présidence et qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Eh bien, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a mis en conformité ses actes et sa pensée, sa logique. Maintenant, l'appropriation du texte, pour lui, c'était essentiel. C'est-à-dire que, vous savez, le dernier commandement de la Torah, c'est « Quitte-vous et ta chère azote, écrivez ce texte ». finalement, si on l'a lu, pourquoi l'écrire? C'est ce que j'essaie d'apprendre encore une fois à mes enfants. Vous pouvez apprendre une poésie. Quand vous l'écrivez, vous la mettez à votre façon, avec votre section, vous voyez, des mots, la façon saccadée ou fluide que vous avez d'écrire et de couper le texte, de le mettre à votre façon. Quand on étudie un texte, finalement, on y rajoute un sens supplémentaire. Le Talmud dit, l'odomé, enfin, je vous le dis en français, ça ira plus vite, il n'y a aucun rapport entre celui qui étudie 100 fois un texte et celui qui l'étudie 101 fois. Mmh. Aucun rapport. Bon, en réalité, 100 fois et 101 fois, honnêtement, c'est la même chose. Mais il y a plusieurs interprétations. L'une qui est très belle, 100 fois, c'est qu'on étudie quelque chose, et 101, d'ailleurs, ce n'est pas marqué 101, c'est 100 plus 1, c'est avec Dieu, le 1. C'est-à-dire, la perspective de savoir que c'est Dieu qui nous a donné ce texte change la façon de l'approcher. Mais il y a une autre interprétation. Oui, il y a une différence entre 100 et 101. 101, j'ai vécu quelque chose entre la centième et la 101e fois. Et ce vécu-là, cette expérience, me permet forcément d'appréhender le texte différemment. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on étudie un texte, on le vit différemment. Et donc la première fois que vous plongez dans un texte, vous réenchantez ce texte. C'est-à-dire que Dieu a donné la Torah pour que vous, il s'appelle le Castelbajac, et que moi, on lise ce texte et qu'on en fasse notre texte. C'est ça. L'idée d'écrire la Torah, c'est d'écrire notre propre Torah.
Et est-ce que la pratique n'est pas aussi un autre moyen complémentaire de s'approprier la loi, de la ressentir dans notre chair? Par exemple, vous nous donnez des explications, vous êtes aussi généreux qu'Amérique, parce que parfois les rabbins répugnent à expliquer, donner les raisons de la cacheroute, par exemple. Or, Amérique, dans son livre, donc par votre intermédiaire, nous explique pourquoi on n'a pas le droit de manger certains oiseaux, pour les quadrupèdes, pas mélanger le lait et la viande. Est-ce que vous pouvez, très très brièvement, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, nous dire comment on peut s'approprier la loi en la faisant passer par le corps grâce à la pratique?
Je vais vous dire. Parce que la Torah est fondée sur un concept très simple. Naaseh v'nishma. Tu vas accomplir et tu vas comprendre. Il ne s'agit pas d'accomplir bêtement. Il ne s'agit pas d'aller que dans le sens en occultant la pratique, ce qui est une vision chrétienne. Paul, il explique très justement, d'ailleurs, quand on est chrétien, c'est ça. Paul prend l'exemple de la circoncision et dit, puisque circoncire, c'est diminuer l'orgueil de l'homme, donc on va circoncire le cœur. Et ça ne sert plus à rien de circoncire le texte. En fait, il arrive au sens, et le sens, une fois qu'on est arrivé au sens, on peut se passer de l'acte. L'acte étant une sorte de rampe de lancement pour le sens. Bon. Le judaïsme, ce n'est pas du tout ça. Le judaïsme place comme essentiel l'acte qui amène au sens. Ce qui veut dire que l'acte que vous faites et l'acte que je fais le même va nous amener à des sens différents. Et moi, ma conviction, c'est que le sens réel de cette mitzvah, ce commandement, c'est la somme de tous les sens que les juifs du monde entier lui accordent et lui ont accordé. C'est-à-dire que je ne sais pas, alors pour un exemple des oiseaux, je ne peux absolument pas vous dire pourquoi le vautour est interdit à manger. Bon, si ça se trouve, un steak de vautour, c'est très bon, et un parguit de vautour, ça doit être extraordinaire. C'est pas caché. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors après, comme je le fais, c'est-à-dire que je me prive de steak de vautour, ce qui n'est pas une grande privation honnêtement, enfin je ne pense pas que il y ait eu beaucoup de sollicitations, mais imaginons qu'on se prive de quelque chose que me dit-on, c'est très bon, les crevettes, ce que vous voulez, ok? Bien. Me privant de ça, je vais y accorder un sens. Ça peut être parce que mes parents ont toujours fait comme ça. Ça peut être parce que je comprends que c'est la fin de... Peu importe la raison. Mais la somme de toutes les raisons que chacun va lui produire, donc la mienne, elle est aussi importante que celle du plus grand rabbin, du plus grand endroit, du plus... Ok ? Eh bien, cette somme, c'est ça la raison pour laquelle Dieu l'a demandé. Mais dire... C'est l'intelligence d'Emeric Deutsch. Il ne dit pas « voilà pourquoi ». Il dit « voilà le sens que j'en tire, c'est moi, vrai. De mon expérience ». Regardez par exemple le porc. Alors, c'est intéressant. Certains disent « le porc, pourquoi c'est interdit ?» Parce que vous comprenez, les sabots fendus, ils ne ruminent pas. Donc il montre qu'il est cachère, parce que ses sabots, c'est ce qu'on voit. Et après, à l'intérieur, il n'est pas cachère. C'est joli. Mais je vous rassure, ce n'est pas pour ça.
Non.
Certains disent « mais c'est normal, parce que la viande de porc se conserve mal, les Hébreux étaient dans le désert, donc c'est pas cachère ». J'ai certains amis non-juifs qui mangent du porc, ils ne sont pas à l'agonie. Ils ne sont pas gravement malades. Je connais même des juifs qui mangent du porc, ils ne sont pas gravement malades. Donc on voit bien que c'est ridicule. C'est spirituel.
Bien sûr.
Ça veut dire que j'y accorde le sens que je mets. Maintenant, ce lien entre action et sens est primordial. On s'est engagé là-dessus, au pied du Mont Sinaï. Donc on est dans la concrétisation de cette histoire depuis le Mont Sinaï.
Emeric Deutsch avait une...
Et puisqu'on parle de chaque concision, je vois le technicien qui veut absolument qu'on coupe là.
Non.
Je vois...
Non, on a encore un peu de temps.
Ah, bon, ça va.
Emmerich avait une conception originale de l'antisémitisme.
Ouais.
Alors, je voudrais bien, mais comme on a peu de temps, que vous nous expliquiez quelles sont les causes de l'antisémitisme selon lui et s'il pense qu'on peut le combattre et comment. Et je lis ça à ma deuxième question. À l'aube de l'année 5772, qui est quand même lourde d'incertitudes pour le peuple juif en Israël et en diaspora, que nous dirait Emmerich selon vous pour nous aider à augmenter nos forces?
Bon, alors. Lourde d'incertitude. On le dit tous les ans dans la Haggadah, soir de Pessah. Bechol dor vador. Omdim alenu lechaloten. C'est-à-dire qu'à chaque année, chaque génération, il y a une Isabelle de Castelmajac qui interviewe quelqu'un et qui dit c'est une année difficile. Ça fait à peu près 3500 ans que ça dure. Bechol dor vador, omdim alenu lechaloten. À chaque génération, on se dresse devant nous pour nous réduire au silence, pour nous exterminer. Ve'akadosh Baruch Hu matzil miyadam, et l'Éternel nous sauve de leurs mains. Je pense que la situation, elle est difficile pour le monde entier. Le monde entier. Ce que je sais profondément, et ce que Emmerich Deutsch explique à un moment, il a des passages formidables sur son interprétation de l'antisémitisme, sur la façon qu'on a de lutter, pas uniquement en disant on est contre les antisémites, mais en produisant de l'intelligence.
Ouais.
Et je renverrai à un texte de la Megillah, le rouleau d'Esther. Finalement, quand les Perses, hein, sous l'égide de Haman, veulent tuer les Juifs, comment ça finit? Bon, on arrange l'affaire, ok. Comment intelligemment Mardoché et Esther vont retisser du lien social? Ils vont forcer à donner aux pauvres. Ils vont forcer à s'inviter les uns les autres, à se donner de la nourriture. Ils vont forcer à retisser des liens vicinaux, dans la proximité. C'est la qualité de ça qui compte. Donc moi, la situation, elle peut être très difficile. Je sais qu'il faut que je m'occupe de ceux qui n'ont pas à côté de moi. Je m'occupe des personnes âgées qu'on a tendance à oublier. Parce que dès qu'il fait chaud, on se dit les personnes âgées. Dès qu'il fait moins de canicule, on se dit, c'est pas grave, la question est réglée, c'est bon, rendez-vous l'an prochain. Mais ça, c'est au quotidien. Les malades, ceux qui ont besoin de quelque chose. Et c'est ça, finalement. Vous avez peur? Aucun problème. Il n'y a pas de problème. On a le droit d'avoir peur. La seule façon de lutter contre cette peur, c'est pas de dire qu'il ne faut pas avoir peur, c'est de retisser du lien social. Ouais. Inviter ceux qui ont besoin. Ne laisser personne qui aurait tendance à casser l'outil parce qu'on ne l'invite pas à la table de la République ou à la table de ce que vous voulez. Et je crois profondément à ce message d'optimisme permanent qui me livrait. Il disait quelque chose d'assez intelligent. Si... Les gens optimistes sont des imbéciles heureux, les gens pessimistes sont des imbéciles malheureux. Je préfère être un imbécile heureux qu'un imbécile malheureux.
On pourrait parler des heures et des heures. Merci.
L'an prochain, Jérusalem.
Merci, Chaim Korsia, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir donné accès, avec Martine Feinzilberg, à l'enseignement d'Emmerich Deutsch, dont nous n'avons pas fini d'estimer la richesse. Je rappelle le titre de l'ouvrage paru aux éditions Des Rosiers, Emmerich Deutsch, la volonté de comprendre. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info et www.mémoirevive.net, où sont archivées toutes nos émissions. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mémoire vive.